The one thing we need more than hope is action.
HE10, penser la conception technologique à partir du livre Prendre soin des milieux, paru aux éditions Matériologiques.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Graphite 94.9 et Graphite.net. Donc, je suis Elliot et je suis en direct avec Gabriella, Laura, Iliès et Martin. Bonjour.
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 Donc, cette émission s'inscrit dans le cadre du cours HE10 à l'UTC qui s'intitule Penser la conception technologique. Le cours est basé sur le manuel écrit par des enseignantes et enseignants de l'UTC. L'UTT à Troyes et de l'UTBM à Belfort. Il s'intitule « Prendre soin des milieux, manuel de conception technologique ». Donc depuis 3 semaines, on se retrouve tous les jeudis entre 10h30 et midi pour étudier des cas de conception de techniques modernes à l'aune des concepts associés au milieu. Donc dans ce cours, on évoque le concept de milieu à travers le concept de l'oubli des milieux et de l'opposition entre milieu versus environnement. On étudie également l'histoire des trajectoires technologiques, la constitutivité de la technique et on voit quelques méthodes pour concevoir en intégrant ces concepts et agir en tant qu'ingénieur responsable. Donc dans cette UV, dans cet enseignement, les étudiantes et étudiants travaillent en groupe sur un sujet pour confronter ce terrain d'étude avec quelques-uns des concepts vus en cours. Donc on a vu dans notre précédente émission les armes non létales, les fermes verticales, le cas de la vidéosurveillance algorithmique ou encore l'IA dans le domaine musical. La semaine dernière, on a vu l'exemple des mégabassines avec les techniques de retenue d'eau et à quel point la mégabassine était une maladaptation aux problèmes liés au dérèglement climatique. Aujourd'hui, on va voir avec les étudiants d'HE10 si on peut imaginer une alternative aux mégabassines.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
Bonjour à toutes et à tous, merci Elliot pour cette introduction et bienvenue dans ce podcast, donc sur ce deuxième podcast sur les techniques de rétention d'eau en milieu agricole. Donc pour rappel, nous avons évoqué la semaine dernière les mégabassines, aussi connues sous le nom de retenues de substitution, qui sont utilisées pour pomper les nappes phréatiques en hiver et constituer d'importantes retenues d'eau à l'air libre, qui servira à irriguer la production agricole, principalement en période de sécheresse. Nous avions vu que ces dispositifs soulevaient de nombreux problèmes, que ce soit en perturbant le cycle de l'eau, en participant à privatiser la ressource hydrique aux dépens de 95% des agriculteurs, et en pérennisant les logiques de l'agriculture intensive. L'objectif du jour est de donner à voir différentes alternatives à ces dispositifs, à travers un voyage historique et géographique, pour partir à la découverte d'autres façons de gérer l'eau destinée à l'agriculture. En effet, l'humanité n'a pas attendu le réchauffement climatique pour tenter de cultiver des espèces végétales et élever différents animaux dans des contextes marqués par un stress hydrique. Cela fait des millénaires qu'une partie de l'humanité est structurée autour de systèmes agricoles complexes et variés, prenant place parfois dans des zones arides ou semi-désertiques. Laura, vous avez étudié notamment l'exemple de l'Andalousie, région espagnole connue pour son climat aride, et qui a pourtant développé un ingénieux système permettant d'irriguer l'agriculture. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors tout à fait Martin, il est effectivement intéressant de se pencher sur les techniques utilisées par les Arabes musulmans en Al-Andalus, l'Andalousie musulmane, pardon, pendant le Moyen-Âge. Ce peuple a dû concevoir des systèmes d'irrigation à une grande diversité de contextes altimétriques et pédologiques et au climat aride de l'Andalousie. Mais alors quels sont les systèmes de retenue d'eau musulmans ? L'eau est tout d'abord déviée d'un cours d'eau ou captée d'une source souterraine grâce à des systèmes d'élévation via des puits ou des norias, qui sont des routes d'irrigation permettant d'élever l'eau. Elle est ensuite acheminée par des canaux en surface que l'on appelle des acequias. L'irrigation est donc majoritairement gravitaire, l'utilisation des pentes est l'une de ses caractéristiques notables. En attendant d'être utilisée, l'eau peut être stockée dans des bassins de rétention, les charriges. Vu que l'eau manque souvent, ces bassins permettent de conserver la réserve et mieux gérer le flux. À petites échelles, les paysans mettent également en place des petits réservoirs qui récupèrent l'eau en automne. Le principal défi des Arabes, qui est d'ailleurs encore un défi pour nos sociétés contemporaines, c'est de gérer une pluviométrie inégale. L'enjeu est donc de récupérer et stocker les excédents d'eau pour garantir une irrigation continue tout en permettant un écoulement suffisant pour empêcher l'érosion ou le pourrissement des cultures. L'eau d'une rivière ou d'une source était détournée puis stockée dans de petits réservoirs lorsqu'elle était excédentaire, puis redistribuée du haut vers le bas en cheminant en zigzag pour retourner vers la rivière ou vers d'autres réservoirs pour ne pas stagner en bas des pentes. Cependant, la séparation en différentes acequias pour alimenter toutes les terres cultivées amène à une répartition inégale, car ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir qui s'attribuent les plus gros canaux d'irrigation. Les musulmans ont alors adapté leur système politique et fait en sorte de répondre à cet enjeu de répartition égalitaire de la ressource. Les usages de l'eau furent ainsi réglementés par des politiques publiques afin que chaque habitant ait accès à l'eau selon ses besoins en fonction de la ressource disponible. Son utilisation est répartie selon les jours de la semaine et les saisons. Une importance particulière est portée à la responsabilité individuelle. Même s'il serait anachronique de parler d'un système écologique, il est surprenant de voir comment les Arabes ont mis en place un système productif et pérenne qui soit en même temps respectueux de la ressource et respectueux des organisations sociales et paysannes.
Alors merci beaucoup pour cet exemple de l'Andalousie. Est-ce que vous en avez d'autres, peut-être à d'autres endroits géographiques, peut-être en France, peut-être ailleurs, à d'autres moments ?
Alors oui, effectivement Martin, de nombreux exemples existent en France, notamment dans le Larzac par exemple. On peut retrouver des lavognes. Ce sont des mares en forme de cuvette avec une pente douce qui sont destinées non pas à l'agriculture de végétaux, mais à abreuver les troupeaux. Elles sont construites en pierre et en ciment pour résister aux sabots des animaux. Elles sont essentielles dans ces territoires où l'eau est rare. Ce qui est intéressant, c'est que même si elles sont bien sûr artificielles, elles ont des berceaux de vie pour la faune et accueillent des grenouilles, insectes et oiseaux. Contrairement aux méga-bassines, ces solutions s'inscrivent davantage dans leur environnement. Un autre exemple intéressant est celui de la plaine de Croix en Provence. C'est un territoire très sec et aride qui était historiquement peu adapté à l'agriculture. Dès le XVIIIe siècle, on a eu l'idée de détourner les eaux de la Durance dans les Alpes et de l'acheminer vers la plaine par un système de canaux à ciel ouvert, comme l'explique Marilène Soma-Bonfillon dans son ouvrage « L'irrigation en Provence, des aménagements et des pratiques au cœur des transformations économiques, environnementales et sociales ». Ce système de distribution de l'eau qui assure un partage équitable de la ressource s'est maintenu au cours des siècles et alimente aujourd'hui les cultures de foin de croc.
Donc, si on résume, les solutions techniques pour capter et utiliser l'eau à des fins agricoles étaient en fait spécifiques à chaque territoire.
En effet, l'enseignement clé de ces nombreux exemples est qu'il existait de multiples techniques de retenue d'eau pour une multitude de milieux différents. Cette diversité se fait de plus en plus rare alors que des solutions s'imposent un peu partout, comme on l'a vu lors du premier épisode à propos des méga-bassines. Le fait est qu'il y a un vrai intérêt à développer une technodiversité qui est, comme le définit Werner Rammer, une diversité culturelle des pratiques techniques. En effet, comme le soulève très bien le chapitre 12 du manuel de conception technologique, je cite « La technodiversité est décisive pour la biodiversité, c'est-à-dire pour la richesse et la résilience de la vie sous toutes ses différentes formes » et « La diversification technologique est une clé pour réinventer une économie industrielle qui lutte contre l'entropie qui est au sens propre mortifère. » Comme il existait plusieurs façons de capter l'eau à des fins agricoles, les façons de construire les habitations étaient spécifiques au territoire qui les accueillait et dépendaient de son climat, de la nature du sol ou des ressources à la disposition des habitants et des habitantes.
Ces alternatives, bien que pertinentes, ne sont peut-être pas les plus adaptées au contexte contemporain. Ça se comprend. Si les cas andalous peuvent nous inspirer, il est vrai que le monde agricole a bien changé depuis. Et si on veut proposer des alternatives, il faut comprendre le monde contemporain et se pencher sur l'agriculture d'aujourd'hui.
La réussite de l'agriculture actuelle provient de l'amélioration du cheptel et du continuel perfectionnement des méthodes employées pour faire pousser les récoltes et augmenter la fertilité du sol. Ce progrès a été rendu possible en partie grâce aux nouvelles découvertes réalisées dans le domaine des machines agricoles. Machines qui effectuent le travail d'une manière plus parfaite ou réduisent la main-d'œuvre. Maintenant, le travail de l'agriculteur est simplifié et d'un meilleur rapport grâce à la culture par un seul homme.
Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor.
Vous venez d'entendre deux extraits de Lina, le premier datant de 1951 et célébrant les découvertes américaines qui ont permis de simplifier les récoltes. Le deuxième relatant le remembrement et mécanisation de l'agriculture française en 1958. L'agriculture a effectivement drastiquement évolué au cours de l'industrialisme. Il serait impossible de prétendre résumer trois siècles de transformation agricole en une chronique de 5 minutes, mais nous pouvons proposer quelques pistes de réflexion pour mieux comprendre l'industrialisation de l'agriculture. L'industrialisation des sociétés occidentales est caractérisée par un exode rural de la population qui tend à se regrouper autour des nouvelles industries. Pour Jean-Pierre Berland, ingénieur agronome qui fut directeur de recherche à l'INRAE de Montpellier, le XXe siècle se caractérise par des évolutions majeures dans les modes de production agricole, avec notamment l'introduction de trois technologies issues de la Première Guerre mondiale. Premièrement, on a vu le développement des machines agricoles comme les tracteurs, directement inspirés des chars à chenilles et d'autres tanks. Après, les engrais, qui descendent d'ailleurs des explosifs, ont permis d'accroître la productivité des sols. Et enfin, les pesticides, qui visent à éliminer tout vivant susceptible de nuire à la productivité et qui ont été développés en s'inspirant des gaz de combat mis au point lors de la Première Guerre mondiale. Ce triptyque va durablement transformer l'agriculture occidentale.
Merci Gabriella. Donc si l'industrialisation de l'agriculture est un processus qui s'étend sur près de 3 siècles, si je comprends bien, une vraie accélération s'opère après la Seconde Guerre mondiale.
En effet, et c'est particulièrement visible dans le contexte français. Comme le rappelle l'historien Christophe Bonneuil, la politique de modernisation agricole est pensée, en France, sous le gouvernement de Vichy. Cette politique, appliquée dès 1945, est souvent présentée comme étant développée pour répondre aux besoins alimentaires des pays dévastés par la guerre. Mais c'est une demi-raison. Si les premières années d'après-guerre sont caractérisées par un vrai manque de nourriture, des tickets des rationnements et de brefs épisodes de famine, notamment lors des émeutes de la fin de 1947, l'autonomie alimentaire française est vite atteinte au cours de la moitié des années 1950. Toujours est-il que, pour produire plus, une politique de remembrement est mise en place. Les parcelles agricoles sont échangées et fusionnées pour constituer de vastes parcelles propices à l'usage des tracteurs. Pour libérer de la place et faciliter le passage de ces engins, les haies sont détruites. Ainsi, depuis 1950, 70% des haies, soit 1,4 million de kilomètres, ont disparu des bocages français. Plus que des grandes parcelles, ce tournant moderne de l'agriculture se caractérise par l'arrivée de machines agricoles, le recours aux engrais et aux pesticides, et la mise en place, en 1962, de la fameuse PAC, Politique Agricole Commune. Cette loi priorise l'achat des produits européens et subventionne massivement l'agriculture européenne. C'est une véritable révolution pour les agriculteurs, qui sont désormais assurés de trouver un acheteur pour toute leur production, et ce, à un prix fixé en amont. La première version de la PAC est une véritable incitation au productivisme et pour cela, tous les moyens sont bons. Si la PAC a été réformée de nombreuses fois et se traduit aujourd'hui par des subventions à la production, les effets sont éloquents, comme le rappelle Sophie Desvienne. Entre 1960 et 2015, le volume de la production agricole totale française a été multiplié par 2,3.
Et concrètement, c'est quoi les conséquences sur l'eau dans tout ça ?
Ces transformations du système agricole, couplées à des transformations sociales importantes, ont directement impacté la ressource en eau. Les besoins en eau ont fortement augmenté. D'après Thierry Caquet, du fait du développement de l'irrigation, les prélèvements d'eau pour l'agriculture ont triplé au cours des 50 dernières années, pour atteindre aujourd'hui 70% des prélèvements à l'échelle mondiale. Cette forte consommation s'est réalisée alors même que le cycle de l'eau était perturbé par l'urbanisation galopante et l'artificialisation des sols, qui ont grandement perturbé la capacité des sols à absorber l'eau. Par ailleurs, le démantèlement des paysages de bocage suite à la politique de remembrement a limité la capacité des écosystèmes à retenir d'eau. Plus qu'un problème de quantité, la qualité de l'eau a durablement été affectée par les pratiques agricoles et notamment par l'épandage de pesticides et le recours aux engrais.
L'état des lieux de la qualité de l'eau en France est inquiétant. C'est le constat que dresse un rapport du Commissariat général du Plan. épinglant au passage les méthodes agricoles et dénonçant l'absence d'une véritable police de l'eau. Principale recommandation, la réduction volontariste des cheptels qui devrait s'accompagner de subventions plus étroitement liées aux efforts environnementaux des agriculteurs.
Évidemment, l'activité agricole ne se modifie pas du jour au lendemain, mais tout est en œuvre et tout est en action sur le terrain à travers un certain nombre de programmes, des programmes d'action dans le cadre des zones vulnérables pour faire en sorte que dans 5 ans ou dans 10 ans, nous ayons des résultats concrets.
Donc, comme nous venons de l'entendre dans cette archive qui date déjà de 2001, l'agriculture a des conséquences certaines sur la qualité de l'eau. Face à de tels problèmes, différents acteurs issus de la paysannerie, du monde scientifique ou de la société civile ont dénoncé ces pratiques et appelé à du changement. C'est également le cas dans la gestion de l'eau où de nombreuses alternatives sont aujourd'hui mises en place pour contrecarrer ces impacts négatifs et repenser notre rapport à l'eau. Dans ce but, certains agriculteurs et agricultrices s'engagent dans la mise en place de systèmes agroécologiques. Par exemple, dans le cadre de cette étude, nous avons échangé avec Benoît Hernier, ingénieur et cultivateur qui nous a présenté ses pratiques sans labour, c'est-à-dire sans utiliser de charrue, afin de maintenir les résidus organiques à la surface du sol et pour éviter que l'eau ne s'évapore en période sèche. En installant des couvertures végétales pendant les périodes où il n'y a pas de culture en place, de la biomasse végétale peut se générer et ainsi augmenter la matière organique du sol. Comme cette matière organique retient l'eau, cela augmente la capacité de l'eau à retenir et à conserver l'eau de pluie. Benoît Hernier nous explique ainsi que ces sols sont passés en une dizaine d'années de 1,5% de matière organique à 2,5%. Et cela a d'autres effets, notamment sur la résistance des plants et du blé aux sécheresses. Ilyès, vous avez travaillé sur d'autres pistes proposées par de nombreux acteurs et actrices du monde agricole pour changer le rapport à l'eau dans l'agriculture. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Et oui, en effet, certaines approches vont plutôt se tourner vers une économie de la ressource en eau. On développe aujourd'hui notamment des systèmes d'irrigation de précision, comme par exemple le goutte à goutte, ou encore l'irrigation par drainage, en s'inspirant par ailleurs d'exemples historiques mis en place dans les régions arides, comme on a pu en voir tout à l'heure.
Alors donc tout ça, ça s'insère dans des actions individuelles. Est-ce qu'il existe par ailleurs des démarches portées par des acteurs publics plutôt ?
Et tout à fait Martin. On peut par exemple citer des actions comme le label Terre de Source, initié par la société publique Eau du Bassin Rennais, qui soutient, qui éduque et qui encourage des pratiques plus responsables vis-à-vis des ressources en eau, en proposant aux agriculteurs de nouveaux débouchés et en valorisant leurs produits par priorisation des offres labellisées. L'accompagnement effectué par ce syndicat se fait graduellement, ce qui veut dire que les agriculteurs ne nécessitent initialement que d'arrêter les productions OGM et de s'engager dans l'évolution vers l'arrêt total de l'utilisation de produits phytosanitaires. L'accompagnement humain effectué par Terre de Source vise à s'adapter aux freins de chacun et à briser la boucle que nous décrivions plus tôt. En éduquant, en récompensant par la valorisation de leurs produits et en donnant un statut permettant d'investir une transition lente et profonde de leurs méthodes, Terre de Source semble proposer aux agriculteurs une méthode d'adaptation, d'écoute et d'accompagnement qui semblerait bon d'entendre à de plus larges échelles.
Et selon vous, l'importance de ces exemples réside également dans le décalage philosophique qu'elles permettent, n'est-ce pas ?
Oui, en effet, ces illustrations montrent que la recherche de modèles agricoles alternatifs permettent de prendre soin des milieux. Pour le comprendre, nous pouvons nous appuyer sur l'ouvrage « Un monde vulnérable pour une politique du Caire », écrit par Joan Tronto et publié en 2009. Cette politologue américaine définit l'éthique du soin comme, je cite, une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, pour perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous les éléments que nous cherchons à relier et un réseau complexe en soutien à la vie. En ce qui concerne la question de l'eau en agriculture, le modèle agroécologique est une réponse qui concilie l'environnement, l'eau, la terre, leurs capacités et leurs limites, les agriculteurs et la société, qui regroupent en quelque sorte les usagers nourris par des cultures. La réponse à la pénurie ne prend donc pas la forme d'un simple réseau de tuyaux d'irrigation ou même de mégabassines, mais d'un système complexe, d'un milieu où différents éléments interagissent. Comme peut l'expliquer Xavier Guchet dans le chapitre 14 du manuel de conception technologique, prendre soin, c'est faire attention aux effets constitutifs du milieu, c'est-à-dire aux nouvelles configurations que la technique crée. Par exemple, dans notre cas, au rapport que nous entretenons avec la ressource en eau. l'agroécologie permet de construire un autre rapport à l'eau employée dans l'agriculture, en la traitant non pas comme une ressource dont on manque constamment et qui doit être contrôlée à l'aide de la technologie, mais comme une ressource qui fait partie d'un cycle naturel complexe. Xavier Guchet oppose donc la conception qui prend en compte les effets du milieu à la conception qui se contente de limiter les impacts. Les technologies d'irrigation de précision peuvent être approchées de cette deuxième acception de la responsabilité du concepteur, puisqu'elles n'ont pour objectif que de réduire la consommation d'eau des cultures et donc de limiter l'impact de l'agriculture sur la ressource en eau.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
Merci beaucoup Iliès pour ces nombreuses illustrations, et c'est justement ce nombre qui me frappe. Il semble y avoir beaucoup d'alternatives pour différents publics et qui fonctionnent déjà. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elles ne soient pas déjà généralisées, Elliot ?
Alors, pour comprendre pourquoi les alternatives ont du mal à se généraliser, il faut d'abord rappeler que le statut d'agriculteur a grandement évolué lors de l'industrialisation de l'agriculture dont Gabriela nous parlait il y a quelques instants. Donc d'un point de vue numérique, on peut dire que les champs ont été désertés. Dans le cas français, le nombre d'exploitants agricoles a été divisé par 5 en 70 ans, passant de 2,5 millions d'exploitations en 1955 à moins de 500 000 en 2021. Le métier a également fortement évolué suite à l'introduction de différentes technologies et de l'augmentation de la productivité qui était recherchée. La course à la productivité est à l'origine de nombreuses pressions qui pèsent sur les agriculteurs et agricultrices, que ce soit en termes financiers, avec notamment la nécessité de rembourser des prêts astronomiques octroyés pour l'achat de machines agricoles high-tech, ou sur le volet réglementaire, en devant respectant de nombreuses normes et en se soumettant à de nombreux contrôles.
Et dans les faits, ça se traduit comment ?
Alors, aujourd'hui, la profession connaît un taux de suicide très élevé, comme l'indique une étude de la Mutualité sociale agricole. En effet, les consommants de ressources du régime agricole de 15 à 64 ans ont un risque de mortalité par suicide supérieur de 30,9% à celui des assurés tout régime. La profession a également de grandes difficultés à recruter, alors que la moitié des exploitants agricoles vont partir à la retraite d'ici moins de 10 ans. Lancés dans une course à la survie, pris dans la spirale de l'endettement, certains agriculteurs n'ont pas les moyens financiers, matériels ou simplement la disponibilité de penser et d'amorcer une transition. En couplant cela avec un certain conservatisme des mœurs productivistes dans lesquelles évoluent les cultivateurs depuis des décennies, il est très difficile d'intervenir auprès des acteurs agricoles pour changer leurs méthodes. La situation des agriculteurs est l'exemple même que, loin d'être une simple question technique, la question de l'adaptation de l'agriculture et de la gestion de l'eau face aux urgences socio-environnementales est une question politique. À l'instar de la politique agricole commune qui avait soutenu et encadré le développement de l'agriculture productiviste, mécanisée et fondée sur les intrants chimiques, on ne peut pas entendre répondre à des enjeux si importants que ceux relatifs aux crises écologiques par la simple addition de solutions techniques.
Et donc si la solution doit être politique, comment est-ce qu'on peut faire ?
Alors, on peut s'inspirer de l'Atelier Paysan, qui est une coopérative agricole d'autoconstruction qui vise à développer des machines agricoles répondant aux besoins des exploitants, pour les libérer de la pression des machines capitalistes. Dans un ouvrage publié en 2021 intitulé « Reprendre la terre aux machines, manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire », ce collectif donne un objectif très concret pour transformer l'agriculture, en visant, je cite, « l'installation d'un million de paysans dans les 10 années à venir en France ». Pour y parvenir, l'Atelier Paysan entend jouer sur 3 leviers. Le premier est de réinscrire les alternatives dans une perspective de transformation sociale. Il faut bien évidemment créer d'autres façon de pratiquer l'agriculture, que ce soit en développant des machines agricoles low-tech et accessibles, ou en transformant nos façons de gérer l'eau. Mais ces alternatives doivent s'inscrire dans un combat politique pour voir advenir un changement. Le deuxième pilier est l'éducation populaire. Il faut participer à la bataille culturelle et repolitiser la question de l'alimentation. En s'éduquant collectivement, les citoyens pourront reprendre en main leur alimentation en partant de leurs besoins. Le troisième et dernier levier est le rapport de force. Il faut faire advenir ces idées par le combat politique et syndical.
D'accord. Et donc concrètement, est-ce que vous avez des exemples à nous donner, à nous et à nos auditeurs, sur des projets permettant de changer réellement notre rapport à l'alimentation ?
Tout à fait. On peut mentionner l'exemple de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, inspiré du système de sécurité sociale de santé que l'on connaît, certains territoires expérimentent depuis quelques mois un système où des particuliers reçoivent un chèque mensuel, généralement à hauteur de 150 €, qui leur permet d'acheter certains produits alimentaires. D'après le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, ces expériences reposent sur trois principes. Le premier est l'universalité. À l'instar de la carte vitale, tout le monde doit pouvoir bénéficier de cette sécurité sociale de l'alimentation. Le deuxième est le fait que le conventionnement est organisé démocratiquement. En effet, le choix des produits accessibles est décidé démocratiquement avec l'ensemble des bénéficiaires, ce qui redonne du pouvoir aux citoyens dans l'orientation du système agricole. Le dernier pilier est le fait que le financement est basé sur la cotisation sociale. Il s'agit en effet de financer ce nouveau système, qui va coûter de l'argent, via des mécanismes de cotisation sociale pour éviter la mainmise de l'État. Donc des expérimentations sont en cours à Montpellier, à Caen ou en Gironde et devraient bientôt fournir leurs premiers résultats. Dans tous les cas, on peut voir une nouvelle approche de l'alimentation où la capacité à se nourrir d'aliments décidés par les citoyens et répondant à un certain cahier des charges, généralement bio et locaux, est prise en charge collectivement par la société en vue d'opérer une transformation sociale.
À travers ces différents exemples, nous avons vu qu'il existait de nombreuses façons de capter et retenir l'eau pour le système agricole. Contre l'hégémonie de la mégabassine, il nous faut repenser notre rapport à l'eau et développer des usages plus respectueux de la ressource et mieux adaptés aux spécificités de chaque cas. De tels changements ne pourront pas avoir le jour sans changer plus généralement le rapport à l'alimentation, comme le proposent le faire différents acteurs que nous venons de citer. Loin d'être une utopie, de nombreuses expérimentations sont aujourd'hui lancées et peuvent être source d'espoir, à l'instar de la sécurité sociale de l'alimentation, de l'atelier paysan, du mouvement Terre de Source, ou encore de la foncière Antidote qui entend sortir des terres agricoles du marché. Les alternatives existent et ne demandent qu'à être développées. Il ne manque plus que la volonté politique.
Pensez la conception technologique avec les étudiants de l'UV HE10.
Donc c'était Elliot, Iliès, Laura, Gabriella et moi-même Martin dans le cadre de l'UV HE10. Pensez la conception technologique. On vous a présenté les concepts de technodiversité et de milieu. Et ce projet ainsi que les autres projets de HE10 sont détaillés sur le site scenariecommunity.org HE10. Vous trouverez notamment les références mentionnées et vous pouvez réécouter cette émission sur graphite.net et d'ici quelques jours sur le réseau de partage de vidéos libres et décentralisées perturbées à l'adresse aperi.tube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 10h30 sur Graphite 94.9 ou Graphite.net pour trois nouvelles émissions.